Bonjour, c'est Léa, journaliste à Bruxelles sur les affaires européennes. Je suis de retour en ce début d'année pour essayer de vous présenter les priorités des différents groupes politiques au Parlement européen pour 2023. Rappelons que les prochaines élections européennes se tiendront en mai 2024, ce qui ne laisse qu'à peine plus d'un an aux députés européens pour conclure le plus de dossiers législatifs possibles, en particulier sur les sujets qui comptent pour leurs électeurs. J'ai profité du fait que les députés n'étaient pas à Strasbourg, mais à Bruxelles début février, pour rencontrer les présidents de groupe et les questionner sur leurs priorités. Je vous donne quelques indices, on va parler Ukraine, migration, climat et justice sociale. « 2023 vient tout juste de commencer et après les vacances d'hiver et un retour progressif aux affaires, le Parlement européen est à nouveau opérationnel. Les eurodéputés viennent de tenir une mini-session plénière à Bruxelles début février où ils ont abordé plusieurs sujets qui devraient marquer cette année. La guerre en Ukraine occupe toujours les agendas alors que les combats continuent et que l'Ukraine espère rejoindre l'UE le plus vite possible. Pour le premier groupe politique, le Parti populaire européen ou PPE, la guerre et ses conséquences sont vraiment la première des choses à traiter en 2023. J'ai intercepté le président du groupe, l'allemand Manfred Weber, dans les couloirs du Parlement européen alors qu'il sortait d'une séance de vote.
Au PPE, nous voulons maintenir l'Europe ensemble. C'est la chose la plus importante en ces temps de guerre, ainsi que de faire preuve de solidarité envers nos amis ukrainiens. C'est vraiment la question la plus importante.
Sur ce sujet en particulier, il est primordial que les États membres au sein du Conseil partagent cette priorité, car ils ont un rôle crucial dans l'élaboration des politiques étrangères. Pour l'instant, la présidence suédoise du Conseil de l'UE, qui court de janvier à juillet cette année, a mis l'Ukraine en priorité dans son agenda politique. Petite parenthèse ici, présider le Conseil de l'UE pour 6 mois signifie que vous devez organiser et diriger tous les travaux techniques et politiques entre les États membres pendant cette période. Ici, on peut entendre le Premier ministre suédois Ulf Kristersson qui s'est adressé aux députés en janvier.
Notre point de départ évident, la priorité de chacun, c'est l'Ukraine. Alors que la résistance ukrainienne continue, nous devons faire notre possible pour s'assurer que l'Ukraine gagne la guerre et que son futur réside dans l'UE. Car si l'espoir du futur de la démocratie est en Ukraine, les espoirs de l'Ukraine sont entre nos mains. Notre mission est de continuer à soutenir les Ukrainiens qui non seulement se battent pour leur indépendance, mais aussi pour leur mode de vie européen, où les droits de chacun surpassent l'usage de la force.
Les sujets comme la solidarité avec les Ukrainiens, la traduction en justice des agresseurs ou les livraisons d'armes vont sûrement rester sur la table jusqu'à la fin de l'année et jusqu'aux élections. Surtout que les conséquences de la guerre sont nombreuses et importantes. Les prix de l'électricité et l'inflation qui va avec ont sûrement été le revers le plus dur pour les citoyens et les entreprises en 2022. En moyenne, dans la zone euro, le taux d'inflation était de 9,2% en décembre 2022. Si on regarde les prix de l'énergie seuls, ils ont monté jusqu'à 42% en octobre 2022, avant de redescendre un peu en fin d'année. Il faut donc répondre à cela en toute urgence et montrer aux citoyens que l'UE a un rôle à jouer dans l'amélioration des conditions de vie. C'est en tout cas ce que pense la chef des sociaux-démocrates Iratxe García Pérez. Elle dirige le deuxième groupe en termes de taille au Parlement européen. Juste avant d'entrer dans l'hémicycle pour une séance de vote, elle a listé pour moi les 4 priorités de son groupe sur ce sujet pour 2023.
Soutien aux citoyens européens face à la situation inflationniste actuelle. Des factures moins élevées. Pouvoir aborder donc des mesures telles que la réforme du marché de l'énergie et aussi un véritable plan de soutien à l'industrie et aux travailleurs, sans perdre de vue la dimension sociale européenne.
Mis à part la guerre et ses conséquences, les groupes au Parlement européen ont leur agenda respectif et il correspond au sujet habituel. Pour le PPE, une grande priorité pour les prochains mois est le pacte d'asile et migration qui est en discussion depuis 2020.
La priorité pour les prochaines semaines, c'est la migration. Il y a une fenêtre d'opportunité et nous avons l'occasion d'apporter des clarifications.
Manfred Weber plaide pour une ligne plus dure sur la migration. Et il réclame même que la Commission européenne finance des murs aux frontières extérieures du bloc. Ce sujet est cher à son groupe, mais pas forcément pour les autres. De l'autre côté du spectre, les Verts ont d'autres chats à fouetter. Et sans surprise, ils s'intéressent plutôt au climat et à l'environnement. Ils veulent surtout compléter le paquet Fit for 55, cette série de législations qui doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030. Je me suis entretenu avec le président des Verts, Philippe Lamberts, dans son bureau, entre deux rendez-vous.
Faire aboutir un maximum du paquet Fit for 55, ça je crois qu'on ne nous le pardonnerait pas que ce paquet-là n'arrive pas à terme. On doit mener la bataille des idées sur le thème de, en réalité, être leader de la transition verte, pas seulement climatique mais verte, est en fait le seul moyen pour l'économie européenne d'être compétitive, c'est-à-dire d'avoir quelque chose à offrir au reste du monde.
La Commission européenne a proposé le paquet Fit for 55 et ses textes en juillet 2021. Il contient des choses telles que la révision du marché carbone, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou des nouvelles normes de CO2 pour les voitures. La plupart des textes ont fait l'objet d'un accord politique entre le Parlement européen et le Conseil. Autrement dit, ils devraient bientôt voir le jour. Mais d'autres sont encore en discussion, comme la révision de la directive sur les énergies renouvelables, par exemple. D'ailleurs, certains au Parlement européen craignent que ces textes soient torpillés, en particulier par les députés de la droite et de l'extrême droite. Ceux-ci voudraient mettre un frein à la tendance de l'UE à mettre des règles partout. En plus des priorités dites habituelles, vient s'ajouter une nouvelle menace économique venue de l'autre côté de l'Atlantique. Ces derniers mois, les États membres de l'UE et les eurodéputés se sont inquiétés de l'entrée en vigueur de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, l'Inflation Reduction Act, ou IRA. Celle-ci va distribuer pas loin de 400 milliards de dollars en subventions ou crédits d'impôt pour les énergies propres produites localement. De nombreuses entreprises européennes ont déjà indiqué qu'elles envisageaient de relocaliser leur production aux États-Unis pour pouvoir bénéficier de ces aides. L'UE est désormais divisée entre ceux qui veulent répliquer avec des mesures similaires, c'est-à-dire distribuer de l'argent pour l'industrie verte avec des conditions, et ceux qui veulent plutôt soutenir les entreprises en évitant de leur ajouter des règles supplémentaires. Pour le PPE, ce serait plutôt la deuxième solution, car ils pensent que les entreprises ne peuvent pas concurrencer le reste du monde si elles ont trop de contraintes réglementaires. Mais de l'autre côté de l'hémicycle, les eurodéputés considèrent que l'UE peut être compétitive si elle montre l'exemple dans la transition verte. C'est ce que pense le président des Verts.
Quand on dit « oui, mais les entreprises se plaignent parce que c'est des charges supplémentaires », moi j'entends aussi beaucoup d'entreprises qui disent « ce qu'il nous faut, c'est surtout de la clarté et de la stabilité dans les règles ». Donc si on se donne des objectifs climatiques, des objectifs de réduction des pesticides, des objectifs de réduction de pollution, etc., qu'ils soient connus et qu'ils soient stables dans le temps, ne changez pas les règles du jeu tous les 15 jours, quoi. Ça, ça ne va pas. Et ça, nous, on est prêts à bosser dans ce sens-là. Et on sent bien que la pandémie, d'une part, la guerre en Russie, jusque maintenant, n'ont pas réussi à faire dérailler les gros éléments du Green Deal européen. Mais maintenant, je commence à voir le danger. Parce qu'on voit le paquet législatif protection de la nature, donc la directive sur la restauration des habitats naturels et sur la réduction des pesticides. Ces deux textes font l'objet d'une opposition massive au sein du Conseil, mais aussi au sein de l'aile droite ici au Parlement européen. Et donc, là, c'est un vrai combat pour éviter que ces textes ne meurent. Donc, les faire aboutir encore cette législature, ça risque d'être compliqué. Le premier objectif, c'est qu'ils ne terminent pas à la poubelle, quoi.
Non seulement les Verts pensent que le pacte vert et ses contraintes sont nécessaires, mais ils estiment aussi que l'UE doit investir dans les technologies vertes pour concurrencer les grandes puissances. Et là-dessus, ils sont soutenus par les libéraux du groupe Renew Europe et par les sociaux-démocrates.
Nous devons également soutenir l'industrie européenne dans son ensemble, une industrie qui doit être verte et durable, avec certains secteurs stratégiques. Et nous devons le faire avec un plan industriel sérieux, avec des moyens financiers, c'est-à-dire de nouveaux fonds. Nous devons aider toute l'industrie européenne, tous les pays. Et comme je l'ai dit, cela nécessite également un plan économique.
Il y a quelques jours, la Commission européenne a fait un pas dans cette direction en soumettant l'idée d'un fonds de souveraineté. Cela pourrait être une solution à moyen et à long terme pour financer son pacte vert industriel. Mais les groupes politiques, tout comme les États membres, ont des opinions divergentes sur l'idée d'injecter de l'argent frais. Tout ça n'est en tout cas que le début d'un long débat politique. On arrive à la fin de ce podcast, qui, je l'espère, vous permet d'avoir un aperçu des enjeux politiques pour cette année 2023. Suivez-nous pour plus de contenu sur les affaires européennes. À bientôt.